Sport sans frontières, spécial Cannes, présenté par Mounir Kamouri sur Radio Orient.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Orient, bienvenue dans Sport sans frontières spécial Cannes 2025. La Coupe d'Afrique des Nations entre dans sa phase décisive, les quarts de finale démarrent aujourd'hui et autour des terrains. Les dossiers continuent de s'accumuler, on fait le point dans un instant. Au sommaire ce soir, le programme du jour avec deux quarts de finale très attendus avec Mali-Sénégal et Cameroun-Maroc. Les réactions des coachs du Maroc et du Cameroun avant le match au micro de notre envoyé spécial Abdeslam Difala au Maroc. Les dossiers du jour avec cette énorme polémique qui éclate avant le choc Cameroun-Maroc et la suite de l'affaire nigérienne autour des primes. La chronique du jour portera sur l'histoire politique de la CAN et pour terminer, le chiffre du jour. On ouvre cette émission avec une soirée charnière dans cette CAN 2025. Place au premier quart de finale, des matchs où le droit à l'erreur n'existe plus. Le Mali retrouve le Sénégal dans un duel 100% ouest-africain. Deux équipes qui se connaissent par cœur, deux styles opposés, la rigueur, la résistance et le courage malien, face à la maîtrise, la puissance et l'expérience sénégalaise. Un match qui promet d'être long, tendu et peut-être indécis jusqu'au bout. Puis place à l'affiche du jour avec le Cameroun qui affronte le Maroc. Le pays hôte joue gros, très gros, face à une sélection camerounaise qui adore ses rendez-vous à élimination directe, un quart de finale chargé d'histoire, de pression populaire et d'enjeux qui dépassent largement le simple cadre sportif. Petit rappel important, le Maroc n'a jamais battu le Cameroun en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, un chiffre qui pèse lourd avant ce rendez-vous. Avant ces rencontres, notre envoyé spécial Abdeslam Difala, présent au Maroc, a assisté aux conférences de presse d'avant-match. Il a notamment recueilli les paroles de Walid Regragui, lucide sur la pression qui entoure les Lions de l'Atlas.
La réalité, elle est que le Cameroun contre le Maroc, en général, vous êtes la bête noire de l'équipe nationale. Vous avez éliminé notre équipe en 88, ici à domicile en demi-finale. Vous êtes venu beaucoup de fois gagner par le passé. Mais le passé, c'est le passé. J'ai toujours dit qu'on était le nouveau Maroc. Donc ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. Le dernier match, je crois qu'on s'est rencontré. Je crois que le Maroc avait gagné. Peu importe. En fait, la réalité, elle est que le Cameroun, aujourd'hui, ils sont en forme. C'est leur compétition parce qu'ils ont tout à perdre. Parce qu'à l'arrivée, s'ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre 2 ans ou 3 ans avant d'avoir une grande compétition. Nous, on a aussi des choses à perdre parce qu'on est chez nous. Mais 4 mois après, on a une Coupe du Monde. Et ça nous laisse une compétition encore à jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on sent les Camerounais motivés. On sent qu'ils jouent toute leur compétition sur ce match, donc ils vont être motivés, plus que d'habitude. Je l'ai dit, nous on a de la pression, mais eux aussi. Mais ça va être un gros match, c'est ce qui est important. Après, nous on est obligés de respecter cette équipe. Ils ont un grand président qui a été un grand joueur. Ils ont un coach qui est fantastique. Il a pris l'équipe un peu comme moi avant la Coupe du Monde. Il a mis des bons principes de jeu, il a un bon état d'esprit. C'est un très bon coach sur le continent. Et ils ont des grands joueurs. Donc avec tout ça, comme je l'ai dit, pour nous, c'est la Coupe d'Afrique de l'humilité, même si beaucoup de mes compatriotes n'ont pas voulu le comprendre dès le début de la compétition. Mais je pense que quand ils voient les résultats de toutes les grosses équipes, ils commencent à rentrer dans le rang et comprennent qu'il faut qu'ils soient derrière l'équipe parce que la CAN n'est pas facile et qu'il y a des grosses équipes de partout. Et nous, si on est humble, eh ben, on aura un bon résultat. Mais en tout cas, le Cameroun, aujourd'hui, ça vaut le Maroc et le Maroc, ça vaut le Cameroun.
On va écouter maintenant les paroles du sélectionneur camerounais, conscient de l'enjeu historique de cette affiche.
Je crois que c'est le Maroc qui a le stade. On a Achraf Hakimi qui joue au PSG, qui est le meilleur joueur africain. Donc, dans les trois du classement, il n'y a aucun Camerounais que je sache. Donc, je pense que le stade, ce sera les Marocains. Nous, on va essayer de les challenger. Donc, voilà. Et par rapport à Eric Graki, et moi, je vous ai dit, moi, j'ai commencé ma carrière internationale, c'était quand hier. Donc, lui, il a fait une Coupe d'Afrique. Une demi-finale de Coupe du Monde, on va comparer deux choses incomparables. Donc voilà. Regragui, il fait son bonhomme de chemin, un beau travail depuis qu'il a la tête des Lions de l'Atlas. Je lui rends un grand hommage ici parce qu'il rend fier la corporation des entraîneurs africains. Donc voilà.
Malgré ce respect mutuel des deux entraîneurs, une polémique a éclaté avant la rencontre. Au centre des tensions, la désignation du corps arbitral. La Fédération royale marocaine de football a officiellement contesté la nomination de certains arbitres, estimant notamment que l'arbitre central égyptien initialement prévu, Amin Omar, et un arbitre algérien à la VAR, n'étaient pas des choix appropriés pour un match aussi sensible. Face à cette contestation, la CAF a fini par répondre favorablement à la requête marocaine en désignant un arbitre mauricien mauritanien pour diriger la rencontre. Cette décision est tombée très tard, alors que les désignations d'arbitres sont normalement arrêtées bien avant le match. Cette série de changements a fait bondir le camp camerounais, notamment la Fédération camerounaise de football et son président Samuel Eto'o, qui ont appris certains ajustements par les réseaux sociaux et non par communication officielle. La CAF a décidé de conserver pour la VAR le même assesseur congolais que celui déjà nommé pour plusieurs matchs du Maroc dans le tournoi, ce qui alimente encore plus la polémique autour de la neutralité perçue du dispositif arbitral. On va écouter l'analyse d'Alister, créateur de contenu et spécialiste football.
On se souvient du dernier match du Maroc avec le pénalty non sifflé. Et là, cette polémique qui vient encore entacher un peu plus le parcours des Lions d'Atlas et notamment la fédération marocaine qui décide aujourd'hui des arbitres qui vont juger leur match. Je trouve que c'est fou parce que pour le coup... L'arbitrage aujourd'hui, c'est toute une organisation, c'est-à-dire qu'ils sont prévus à l'avance, il suffit que la fédération monte au créneau pour changer les arbitres et mettre un arbitre en leur faveur. Moi, je peux comprendre que Samuel Eto'o soit en colère, parce que forcément, déjà, il l'apprend dans des circonstances un peu particulières, et puis c'est inadmissible. Je veux dire, si on commence à faire ça, à quel moment on peut parler de corruption? Alors oui, peut-être que là, on va loin. Je pense que ça ne va pas arranger les affaires du Maroc, ça va surtout entacher cette compétition, qui est très belle, mais malheureusement, je pense que là, il n'y a pas à avoir de changement d'arbitre en faveur d'une équipe ou d'une autre, et encore moins en faveur de l'équipe organisatrice. En tous les cas, j'espère que ça ne pénalisera aucune des deux équipes, parce que s'il y a des faits de jeu litigieux ce soir, il ne faudra pas s'étonner si le Cameroun lance des recours auprès de l'organisation, ce qui entacherait un peu plus la compétition et le parcours du Maroc. Encore une fois, je pense que le Maroc va devoir démontrer par le jeu qu'ils ont les capacités de gagner cette CAN, parce que pour le moment, on entend plus parler des polémiques autour du Maroc que de leur jeu.
Autant dire que le match de ce soir risque d'être électrique, que le résultat suscitera peut-être de nouvelles polémiques. On attaque maintenant l'autre dossier du jour, ou plutôt la partie 2 de cette tempête entre les joueurs du Nigeria et la fédération. Après la menace du boycott de l'entraînement et du déplacement à Marrakech, les choses semblent avoir évolué. Selon plusieurs sources concordantes, les joueurs nigérians devraient finalement percevoir leur prime avant le quart de finale face à l'Algérie. La ministre d'État aux Finances justifie le retard de paiement par, je cite, « le processus de conversion des fonds en devises étrangères ». Le processus a été accéléré, les derniers virements vers les comptes domiciliés sont actuellement en cours. Le gouvernement fédéral et la Banque centrale du Nigeria ont rationalisé avec succès le traitement des opérations de change afin de garantir que les joueurs soient récompensés sans plus tarder. Fin de citation. Un soulagement apparent, mais qui ne fait pas totalement disparaître les tensions, car ce bras de fer avec la fédération nigérienne n'est pas un cas isolé. Ces conflits autour des primes sont récurrents dans l'histoire récente des Super Eagles. Le Nigeria arrive à ce quart de finale avec beaucoup plus que du football à gérer. On va écouter l'analyse d'Achille H, journaliste sportif pour Sport News Africa.
On prend les mêmes et on recommence. À chaque grande compétition, c'est toujours la même musique qui tourne en boucle du côté de la sélection du Nigeria. On ne parle pas forcément de tactique, on ne parle pas forcément de jeu, non. On parle de primes impayées. C'est devenu vraiment une triste tradition. Les joueurs qui boycottent l'entraînement, les dirigeants qui promettent des virements qui n'arrivent jamais, il y a toujours une ambiance de crise qui s'installe, toujours en plein tournoi. Mais le problème, dans le fond, c'est même pas l'argent, c'est plutôt une question de confiance. Comment demander à des athlètes de haut niveau de se donner à 200% quand en coulisses, on ne respecte pas les engagements de base. Le Nigeria est un géant du football africain, mais sur ce terrain-là, se comporte comme un amateur. Il serait temps que la fédération nigériane comprenne qu'une équipe nationale ne gère pas à coups de promesses en l'air, mais avec du respect et du professionnalisme. Parce qu'à force de jouer avec la morale des joueurs, c'est tout le football nigérien qui finit par perdre son éclat et son crédit. Dieu merci, la situation a été réglée, et en espérant qu'à l'avenir, cette situation ne se reproduise plus, et que le Nigeria, de ce point de vue, lorsqu'on doit être amené à parler d'eux, ça ne soit que sur le terrain et les performances sportives.
Une question reste posée, ces tensions sont-elles définitivement derrière les Super Eagles ou risquent-elles encore de ressurgir ? Saviez-vous que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un acte politique anticolonial ? C'est l'objet de la chronique du jour.
Vous saviez que la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas née uniquement pour le sport ? À l'origine, la CAN est avant tout un geste politique, un symbole fort d'émancipation. Retour dans les années 1950. À cette époque, la grande majorité des pays africains vivent encore sous domination coloniale. Le 8 février 1957, à Khartoum, quatre nations prennent une décision historique. Le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Afrique du Sud créent la Confédération africaine de football. Dans la foulée, ils lancent une nouvelle compétition. Et très vite, un choix clair est fait. L'Afrique du Sud est mise à l'écart à cause de l'apartheid. La CAN est alors pensée comme une compétition conçue par les Africains pour les Africains. Un tournoi qui offre quelque chose de rare à l'époque. Un espace où les nations peuvent exister librement, sous leurs propres couleurs. Pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan politique, culturel et symbolique. C'est pour cela que la CAN occupe une place à part dans le football africain. Bien plus qu'un trophée, c'est une vitrine, une affirmation, une fierté collective. Si la compétition est aujourd'hui aussi populaire, ce n'est pas uniquement parce qu'elle rassemble les peuples. La CAN participe aussi à renforcer l'image des pays africains sur la scène internationale. Elle pousse au développement des infrastructures, stimule les économies locales et met en lumière le football du continent. Elle crée surtout un lien unique entre les supporters restés au pays, la diaspora, et les joueurs qui évoluent en Europe. La CAN se joue traditionnellement tous les 2 ans, souvent en hiver. Un choix dicté par les réalités du continent africain. Éviter les saisons de pluie intenses et les températures extrêmes. Mais ce calendrier est aussi un message. Celui d'un football qui refuse de se plier aux standards européens et qui affirme son propre tempo. Aujourd'hui encore, la CAN dérange. Parce qu'elle perturbe les intérêts économiques, désorganise certains calendriers, et surtout parce qu'elle rappelle que le centre du football mondial n'est pas unique. Mais ce modèle évolue. Sous l'influence de la FIFA et des grandes ligues européennes, la Confédération africaine a annoncé un changement majeur. À partir de 2028, la CAN ne se disputera plus tous les 2 ans, mais tous les 4 ans. Est-ce une évolution nécessaire ou un renoncement à ce qui faisait l'identité du football africain ?
Cette partie a été réalisée avec l'appui de l'intelligence artificielle.
Et on termine avec le chiffre du jour, 2, comme le nombre de jours de repos entre les huitièmes de finale et les quarts de finale de cette CAN 2025, un chiffre qui peut paraître anodin, mais qui pèse énormément dans les jambes, car avec des matchs souvent disputés jusqu'à la prolongation, parfois au tir au but, ces 48 heures deviennent un vrai luxe ou un vrai handicap. À ce stade de la compétition, la fraîcheur physique devient un avantage décisif, les équipes qui ont plié leur match rapidement récupèrent mieux, celles qui ont dû batailler arrivent avec de la fatigue accumulée, et dans une CAN aussi dense, aussi engagé, où l'intensité est permanente, ces 2 jours peuvent faire la différence entre une demi-finale et une sortie frustrante. Voilà, c'était Sports sans frontières, spécial CAN 2025. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous ce soir pendant le match du Maroc. On vous donnera les temps forts du match pendant les 90 minutes.
C'était Sports sans frontières, spécial CAN, présenté par Mounir Kamouri sur Radio Orient.